Voici le deuxième épisode de ma série sur l'année 1983. Au menu, des maguettes à la Courneuve, les banlieues s'embrasent. Le verlan qui s'installe dans le cordet. Michael Jackson qui dégaine son moonwalk. Et une Miss France qui rend sa couronne.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
Le 21 mars 1983, le quartier des Minguettes, dans la banlieue sud de Lyon, s'embrase.
Tout a commencé par une simple vérification policière avant de tourner véritablement à l'émeute. Vers 9h30 ce matin, une patrouille de police descend de son car pour effectuer une perquisition chez des particuliers. Ils recherchent de la fourrure volée. La perquisition tourne mal. Un groupe de jeunes gens prend les policiers à partie et très vite le ton monte. Des pierres sont lancées sur les agents. Ceux-ci appellent du renfort, ce qui ne fera qu'accroître la tension. Après les pierres, les bouteilles, les jeunes gens lancent des cocktails Molotov. Ainsi, des policiers en tenue ont été blessés, au nombre de 4 ou 5. Le quartier est bouclé par la police. Une centaine de jeunes maghrébins sont toujours rassemblés au centre d'un carrefour, cerné par les CRS. Vénitieux, Jean-Bernard Cadier, Europe 1.
11 personnes sont blessées. Le préfet reçoit même un pavé en pleine poire. Mais aucune interpellation. Ça n'était pas le moment, la tension était trop vive, dit-on chez les policiers. Les jeunes des banlieues en ont marre d'être stigmatisés par la police et par la justice.
Notre dossier ce soir, le développement du racisme en France envers les immigrés. La France compte actuellement plus de 4 millions d'étrangers sur son territoire. 70% de la population immigrée y vit depuis plus de 10 ans. Mais pourtant, cette cohabitation est souvent mal vécue, très mal vécue.
Pour ma part, je sens que je suis mis de côté. On est, pour ainsi dire, refoulé. On fait pas partie de leur milieu. En France, on n'est pas chez nous. Et là-bas, on nous appelle l'étranger. On nous appelle l'immigré. On est mal vu partout. On chevauche deux cultures, alors on sait plus de quel côté on est.
3 mois et demi après les émeutes des Minguettes, c'est au tour de la cité des 4000 à la Courneuve, au nord de Paris, de s'embraser. Le samedi 9 juillet 83, il fait très chaud. C'est le dernier jour du Ramadan. Et Toufik, 9 ans, joue dehors avec d'autres enfants, au pied de l'une des barres de la cité. Il est environ 22h, la nuit tombe, et Toufik est abattu par un voisin. Un témoin raconte sur Europe 1.
Il s'amusait à faire péter des pétards et ainsi de suite. Et il y a des gens, bon, qui étaient mécontents à la fenêtre, qu'on dit aux enfants d'arrêter de faire péter des pétards. Un samedi soir, ils ont quand même le droit de s'amuser. Hein. Mmh. Ou sinon, bon, en plus, c'est les vacances, et vous voulez qu'ils aillent, il fait chaud, ils sont dehors, ils sont obligés de rester. Bon, il y a quelqu'un qui les a prévenus à la fenêtre, qui leur a dit au 9e, je crois, au 10e, des Antillais, qui lui ont dit, bon, faut pas t'amuser ici, allez dégager d'ici. Puis tout d'un coup, bon, ils ont reçu une bouteille d'eau, et eux, ils s'amusaient, ils sont toujours restés. Puis tout d'un coup, ils ont voulu faire péter un feu de Bengale, et l'autre, il faisait péter des pétards. Et en même temps que la détonation a eu lieu, avec le pétard et le fusil, le petit s'est levé, il a pris quelque chose, il a couru, il a dit, oh, j'ai reçu quelque chose dans la poitrine. L'enfant a dit ça. Il était allongé, puis il a dit à ses copains, regardez ce que j'ai. Et tous ses copains sont venus à son chevet. Ils ont regardé et tout, ils étaient paniqués, ils lui ont dit, panique pas. Bon, ils sont venus nous voir, ils ont dit, appelez SAMU, la police et tout. Puis le petit commençait à devenir tout blanc, les yeux, il changeait de couleur et ainsi de suite. Le SAMU est venu, ils ont soigné, quoi, ils ont essayé de faire le nécessaire. Ils n'ont pas réussi, et la mère, elle est folle de rage, de pleurs, et c'est, de douleur, elle ne sait plus où on en est. Quoi.
Les policiers débarquent immédiatement dans la cité pour débusquer l'auteur du coup de fusil.
Il faudra aux policiers de la 8e brigade territoriale frapper à toutes les portes des 360 appartements de l'immeuble, d'où le coup est peut-être parti. À 2h du matin, toute la cité était dans la rue. Écoutez la réaction des habitants.
On ne tue pas les enfants! On est comme chez nous ici, on a vécu ici, on a resté toute notre vie ici. Nos parents, ils nous ont gaspillé toute leur vie ici. Il n'y a pas de raison qu'ils se vengent pour les petits. Faut pas se laisser faire, faut pas se laisser faire.
Un jeune de 8 ans, vous vous rendez compte? C'est malheureux, hein?
Madame, vous disiez que vous êtes la tante du petit garçon.
Oui, je suis la tante. Je peux pas vous décrire ce que je ressens. Un enfant, un gamin qui est en train de s'amuser maintenant. Ça fait une heure, il est mort, on n'arrive pas à le réaliser. Et puis il faut demander à sa mère, il faut aller voir sa mère là-haut comment elle est. En plus, non mais c'est pas normal ça. Faire Ramadan toute la journée, et puis à 10h on nous appelle pour nous dire que le neveu a été tué parce qu'il jouait dehors. Vous trouvez ça normal?
Eh ben pas, on peut pas les enfermer, c'est le Ramadan, on mange à 10h. Hein? Comment voulez-vous qu'on tient les enfants dans les appartements.
C'est pas la première fois que les gosses rentrent à l'hôpital avec des balles à plomb dans les jambes ou dans le tout le corps. C'est pas la première fois. Ils se prennent tous pour des cow-boys. Ils se croiraient dans les ranchs ici.
Mais le premier jour, les policiers font chou blanc. L'assassin est pourtant là. Il est quelque part dans ce bloc de 16 étages.
Tout est reparti de zéro ce matin à la cité des 4000. Leur colère mise en veilleuse seulement. Les habitants du grand bâtiment de la rue Renoir, d'où est parti le coup de feu meurtrier, ont pu suivre de leur fenêtre une étonnante reconstitution du drame. Devant le commissaire Gential et ses hommes de la brigade criminelle, les quatre camarades de Toufik qui jouaient avec lui samedi soir ont refait leurs gestes. Ils ont indiqué aux policiers comment leur copain, qui était accroupi en train d'allumer un pétard, a brusquement porté la main à son épaule droite, puis s'est relevé pour s'écrouler quelques dizaines de mètres plus loin dans l'entrée de son immeuble. Tout au long de la reconstitution, ce sont les plus grands de la cité, les 15-16 ans, qui ont fait respecter le calme en cercle autour des enquêteurs pour empêcher les plus petits de s'approcher. Contrairement à ce qu'on a pu dire, les habitants de la cité sont prêts à aider les policiers pour retrouver l'assassin.
Raconte l'année 1983.
En juillet 1983, le dernier jour du Ramadan, en pleine canicule, Toufik, 9 ans, un gamin de la cité des 4000 à La Courneuve, au nord de Paris, est abattu d'un coup de fusil. Pourquoi ? Parce qu'il faisait du bruit avec des pétards et que le tireur a estimé que ça faisait trop de bruit. Dans la cité, les policiers et les habitants tentent de le débusquer. Et il ne s'est toujours pas rendu. Aux 4000, en vérité, l'ambiance est au lynchage.
De toute façon, ce bonhomme-là, je ne sais pas de quelle race il est. En tous les cas, si vraiment c'est un être humain, il va mourir avec seulement les remords. C'est vraiment un être humain. S'il a des enfants, et s'il a des regrets, vraiment, qu'il n'a qu'à se présenter à la police, il faut l'enfermer avant qu'on l'arrête.
Le troisième jour, les policiers concentrent leurs soupçons sur une centaine d'appartements. Et ça paye. Le tireur est identifié, il est arrêté et surtout exfiltré en toute discrétion.
Les habitants de la cité des 4000 sont satisfaits, pour ne pas dire contents, d'apprendre que le meurtrier de Toufik a été arrêté, mais ils voudraient connaître son identité. En début de soirée, les dizaines de jeunes qui surveillaient le travail des enquêteurs dans les entrées B et C ont acquis le sentiment que quelque chose venait de se passer dont ils avaient été tenus éloignés. On avait sans doute arrêté le coupable et pourtant personne ne l'avait vu sortir. Les jeunes ont alors interrogé les policiers, les ont chambrés comme ils disent, afin de leur tirer les vers du nez. Énervement, bousculade, on a frôlé l'affrontement et une épave de voiture a été incendiée. Mais motus et bouche cousue, c'était et c'est toujours la consigne des autorités, tout faire pour éviter les règlements de compte qui cet après-midi auraient pu tourner au lynchage. Ici, au 4000, où le calme est revenu très vite, on est maintenant persuadé que le meurtrier de Toufik n'a pu sortir de l'immeuble que déguisé, porteur d'un simple brassard de police ou même d'un véritable uniforme. Et certains jeunes, dans leur soif de justice, considèrent qu'ils ont été bernés.
Je suis très, très, très satisfait. Ce soir, normalement, la cité doit être en fait, malgré qu'on est en deuil. Ce qu'il y a, bon, on s'est battu pendant 2 ou 3 nuits de suite et 3 jours de suite pour collaborer avec la police. On a fait à peu près un marché avec la police. C'est au moins qu'on puisse voir son visage. Ils nous ont eu, ils l'ont déguisé en agent de police parmi eux. Et ils l'ont eu. C'est quand même, on est satisfait qu'un assassin de petit Toufik l'ait arrêté.
Le mois suivant, le président de la République, François Mitterrand, se rend aux Minguettes près de Lyon. C'est la toute première visite d'un président de la République dans une cité.
Nous nous sommes promenés à travers ces quartiers, nous sommes entrés dans les logements, nous y avons reçu un accueil chaleureux, sympathique, encourageant. Nous n'avons pas distribué les promesses, nous avons simplement fait du travail. Je leur ai dit que il n'était pas concevable que réhabilitation, puisqu'il s'agit de cela, puisse se faire sans que ceux qui vivent dans ces quartiers puissent prendre part au projet et à sa réalisation. C'est dans ce sens que nous nous dirigeons, compte tenu, cela va de soi, du rôle différent de chacun, mais rôles qui doivent se coordonner pour que ce soit une véritable œuvre collective, hors de laquelle nous n'en sortirons pas.
Au Minguettes, 2 mois après la visite du président de la République, un jeune de la cité, Toumi Djaïda, monte l'association SOS Avenir Minguettes. Et avec un curé, le père Christian Delorme, il organise une grande marche de 1200 km entre Marseille et Paris. Il s'agit de lutter contre le racisme, de promouvoir l'égalité pour tous et d'obtenir une carte de séjour de 10 ans pour les étrangers. Le 15 octobre 83, la marche part de la cité de la Caillole à Marseille. À vrai dire, aucun grand média ne s'intéresse à ce départ. Mais un mois plus tard, alors que la trentaine de marcheurs approche de Lyon, une ratonnade marque la France. Les auteurs, 6 légionnaires qui rentrent en train de Bordeaux en direction d'Aubagne.
Tous les 6, après avoir largement fêté leur départ de Bordeaux, étaient dans le train de nuit Bordeaux-Vintimille. L'alcool aidant, et afin de se distraire quelque peu, ils s'en prennent à un jeune arabe de 26 ans. Injures racistes, puis très vite, les futurs légionnaires passent aux actes. Coup de poing, coup de pied, le jeune maghrébin originaire d'Oran réussit à s'enfuir du compartiment et court dans le couloir. Il demande la protection d'un contrôleur qui l'installe en tête du train sur une banquette réservée aux agents de la SNCF. Hélas, la ratonnade n'est pas finie. 3 des jeunes recrues retrouvent Abid Kremsi. Cette fois, ils sortent les couteaux, puis ouvrent une fenêtre et poussent le jeune Algérien hors du train. Il est tué sur le coup. Son corps est retrouvé au petit matin sur le bord de la voie ferrée entre Castelsarrasin et la Ville-Dieu dans le Tarn-et-Garonne. Le contrôleur, qui avait dû s'absenter quelques minutes, revient vers le wagon de tête pour voir où en est son protégé. Il ne découvrira que des traces de sang sur la banquette vide.
La victime de cet acte raciste s'appelle Habib Grimzi, un Algérien de 26 ans. Dans la foulée, la marche des jeunes de la cité des Minguettes sort de l'ombre. Et Toumi Djaïdja et sa bande sont rejoints par des centaines de sympathisants. Ils sont 2000 à Lyon, presque autant à Grenoble et Chambéry, 1500 à Strasbourg. Et Libération trouve un nom à cette marche, la marche des beurs. Le 3 décembre 1983, le mouvement pédestre s'achève par un défilé parisien de plus de 100 000 personnes.
Dans le cortège, des représentants des syndicats, associations, partis politiques de la majorité et de l'opposition, comme le CDS, présents également les représentants de toutes les confessions. Enfin, 3 ministres du gouvernement ont voulu faire les derniers kilomètres avec les marcheurs. Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures, Huguette Bouchardot, secrétaire d'État à l'Environnement, et Georgina Dufoy, secrétaire d'État à la Famille et aux Travailleurs immigrés. Les organisateurs et les marcheurs ont répété leur slogan. Non au racisme, justice pour nos morts, égalité des droits et des devoirs entre Français et immigrés. Mais certaines banderoles et certains slogans n'ont pas épargné les autorités. Le premier raciste, c'est l'État français, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Une marche pacifique, mais un cri de colère également, comme en témoignent les difficultés rencontrées par Georgina Dufoy quand elle s'est adressée à la foule.
Les ministres de la Justice proposeront prochainement. Taisez-vous et écoutez, vous regardez. Que les violences, taisez-vous. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Mais écoutez, écoutez, mais écoutez. Le ministre de la Justice, je proposera que les violences à caractère raciste deviennent des infractions pénales spécifiques, aux sanctions plus lourdes.
François Mitterrand reçoit le jeune Toumi Djaïdja, organisateur de cette marche. Et le lendemain, au micro d'Europe 1, il se félicite que le message soit bien passé.
Tout d'abord, pour ce qui est de la marche, il a été très content qu'elle se fasse. Par rapport aux jeunes victimes des actes racistes, il comptait prendre des mesures, contacter M. Badinter pour revoir les dossiers. Alors bon, là, il y a déjà quelque chose. Pour ce qui est de la carte de 10 ans, c'est bien parti, c'est en train de se faire. Et je rajouterais même que le président Mitterrand a pris une écharpe de la marche.
Vous pensez que tout ça, ça aurait été efficace?
Eh bien oui. On peut dire qu'on a déjà fait un pas vers l'égalité, ça c'est certain.
Et pour vous alors, c'est quoi le bilan de cette journée?
Eh bien ça a changé une chose, qu'on ne peut plus jamais rien généraliser. On ne peut plus dire que les Français sont racistes. Le fait qu'il y a des gens de quel âge qu'ils soient, ils sont venus marcher avec nous, on ne peut plus généraliser. Le fait qu'un policier a collé un autocollant de la marche, on ne peut plus dire que les policiers sont tous salauds. Voilà.
Le mot « beurre » entrera dans le dictionnaire l'année suivante, en 1984.
I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
C'était Grandmaster Flash avec The Message. Au début de l'année 1983, ce morceau de rap a atteint les sommets des hit-parades en France.
L'année 1983.
En 1983, la culture urbaine invente un langage, le verlan.
Comment tu te sens devant la caméra ?
Je me sens mal parce que j'ai l'impression d'être devant des condés et on est surveillé, quoi.
Des condés ?
Des condés, oui. Des keufs, quoi.
Des keufs ?
Oui, ou je sais pas, moi, des djedges. Ou...
Des djedges ?
Ouais.
Ça veut dire quoi ?
Des condés, djedges.
Keufs, djedges.
Ça veut dire des flics.
Et est-ce que c'est flippant quand on est amoureux ?
Pas du tout, c'est yimbe.
C'est comment ?
C'est yimbe.
Hein ?
Yimbe.
Yimbe.
Bien. C'est bien.
C'est bien. Si tu es amoureux d'une fille, tu dis comment ?
Je suis croque, je suis Morgane d'une fille. D'une gadji, plutôt.
Une gadji ?
Ouais, une gadji.
Et ça existe au masculin, ces mots-là ?
Oui, gadjo, un paille, une paille.
Alors attends, bah, doucement, parce que c'est compliqué, ça. Un gadjo, un paille.
Une paille, une meuf, enfin, c'est du verlan.
En 1983, le premier film intégralement en verlan, L'envers des choses, passe à la télévision. Il met en scène deux jeunes discutant dans un café.
Te voilà, Zezgon. Allez, viens, ben. Je le comé. Ils ont de la sochon, c'est où ? Tu veux, il me l'a topré ? Je vais le revoir, je lui
demande.
Topré-moi ta tomo, allez, viens. Je vais faire un petit route.
Et où ? Ce vaisseau, à curé.
On l'a les veaux ?
Ouais.
On va lui les veaux, ça canbé.
C'est un bon meufil. Moi, je vais pas revoir ton meufil, je te viens après.
Moi, je n'ai rien à te refouler, je vais pas revoir le lien, toi.
En 1983, grand complice du verlan, un courant musical débarque, le rap, qui commence à émerger au sommet des hit-parades. Falco et son Der Kommissar, le tout premier titre de rap allemand, est un énorme tube dans toute l'Europe. En 83, le rap est partout, même dans un tube de l'été, comme celui signé par Indy. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Nouveau son, nouvelle manière de se mouvoir, le rap est accompagné du smurf et du breakdance. Ça vient évidemment des États-Unis et un film à succès popularise ces danses, Flashdance. C'est dans ce film Flashdance qu'on voit pour la première fois la toupie. Vous savez, la tête au sol et le danseur qui tourne sur lui-même à la vitesse de l'éclair. Le breakdance fait des émules et même Michel Drucker s'y met. Ça se passe le 10 décembre 1983 dans son émission Champs-Élysées.
Il a fallu une séquence de 2 minutes 30 dans Flashdance, le dernier film de Travolta, pour que cette danse, breaking dance, breakdance, devienne maintenant une danse à la mode dans le monde entier. Tout le monde commence à danser un peu partout, en Europe et aux États-Unis, cette danse qui est très étrange, à la fois robot, à la fois mime. Ce sont trois Américains. Street Dance, c'est le titre de leur morceau. Vous allez voir comment ils dansent, c'est assez hallucinant. Ça va sans doute vous rappeler Flash Dance si vous avez vu le film.
Danse qui est assez positif pour surtout les ghettos noirs américains. C'était une manière de résoudre les problèmes de gang. Tout se réglait au couteau et aux armes, et jusqu'à un moment où deux gangs se sont affrontés tout en dansant, en voulant s'approprier un territoire, et le meilleur danseur, la meilleure troupe de danse pouvait acquérir ce territoire. Et après, ça s'est popularisé, c'est devenu maintenant, 30 ans après, 40 ans après, des battles. Mais voilà, à la base, c'était pour vraiment abaisser les tensions qu'il y avait dans les ghettos noirs à New York.
Ça, c'était les Rocksteady Crew, un des tout premiers groupes new-yorkais qui donne une impulsion au breakdance. Mais le grand ambassadeur mondial n'est autre que Michael Jackson.
L'année 1983.
En 1983, les jeunes du monde entier adoptent une culture urbaine. En France, on parle verlan, on aime le rap, on danse le smurf et le breakdance. Et le roi du breakdance, eh bien, ça n'est personne d'autre que le roi de la pop, Michael Jackson. Le 25 mars 1983, au cours d'une émission télé américaine qui célèbre les 25 ans de la Motown, la star exécute pour la première fois en public un moonwalk. Ce pas de danse glissé vers l'arrière. Michael Jackson reprend cette figure phare du breakdance dans son titre Billie Jean. Et il l'exécute avec une telle perfection que le moonwalk devient indissociable de Michael Jackson et vice-versa. Avec ce tube planétaire, Michael Jackson reste 5 semaines en tête du hit parade français. Le roi de la pop est d'ailleurs détrôné par lui-même, avec un autre tube issu du même album Thriller, Beat It. En 1983, au-delà de la musique, l'album Thriller est un événement parce qu'il est illustré par des vidéoclips de talent réalisés par des cinéastes aguerris. C'est la première fois. Il y en a un qui va battre tous les records et époustoufler le monde entier. C'est le vidéoclip du titre Thriller. 13 minutes de grand spectacle conçu comme un film. Et encore une fois, en France, c'est Michel Drucker qui sent le coup. Et le moment historique. Michel, tu nous écoutes ? Chapeau.
5, 6, 7, 8, il compte plus les disques d'or.
Oui.
C'est Michael Jackson. Michael Jackson a vendu en France 1 million d'albums de Thriller, qu'on va écouter dans un instant, et 14 millions d'albums cette année dans le monde. Vous savez que c'est le plus jeune de la tribu des frères Blackwell.
Jalousie.
Jackson 5. Alors vous savez que dans cette émission, depuis que Champs-Élysées existe, on vous a toujours présenté en priorité et en exclusivité les vidéos quand elles en valaient la peine. Vous avez eu Barbara Streisand, vous avez eu déjà Michael Jackson avec Beat It, vous avez eu Rod Stewart, David Bowie. Voici maintenant une partie, je dis bien une partie de cette vidéo, de ce clip que nous avons reçu des États-Unis, car il dure 14 minutes. Alors regardez, c'est Thriller, c'est le titre de l'album de Michael Jackson. Et regardez ce que les Américains font. Ils ont imaginé un véritable scénario. Les enfants qui ont vite peur doivent s'écarter du poste, car c'est un véritable petit scénario de film fantastique, de film d'épouvante, sur le thème de Thriller de Michael Jackson. Regardez, ça en vaut la peine. Thriller, Michael Jackson.
Michael Jackson vend 1 million de vinyles de Thriller en France. Mais en mars 1983, le vinyle est censé devenir ringard car un tout nouveau support est présenté au salon Wi-Fi et vidéo de Paris.
Les tendances en matière de haute fidélité vont toujours vers la miniaturisation des chaînes et la télécommande. Mais la grande nouveauté 83, c'est sans aucun doute le disque compact. Un nouveau seuil qui conduit vers la perfection et dans ce domaine, la bataille bat son plein au niveau des constructeurs. L'enregistrement numérique qui succède à l'enregistrement analogique est bien entendu présenté par toutes les grandes marques avec l'indispensable lecteur laser.
Il s'agit ici du support, n'est-ce pas, qui apporte évidemment une grande qualité, une dynamique supérieure.
Il n'y aura plus jamais de grésillement avec le saphir ou l'aiguille.
Il n'y a plus le diamant qui laboure le disque, n'est-ce pas, c'est une lecture laser.
Parce qu'il n'y a pas de contact.
Le démarrage est timide. 25 000 lecteurs CD seulement sont vendus en 1983, c'est-à-dire la moitié du chiffre escompté. Parce que c'est cher. Il faut quand même débourser 7 000 francs pour acquérir un lecteur CD. 2 200 euros d'aujourd'hui. Mais le marché du CD se démocratisera et décollera 2 ans plus tard, en 1985.
L'année 1983.
Le 1er janvier 1983, Isabelle Turpeau, Miss Paris, est élue Miss France 83. La cérémonie à l'époque n'est pas diffusée à la télévision. Alors la toute nouvelle Miss France fait le tour des émissions phares de la télé. Et 3 jours plus tard, elle passe sur le plateau de l'incontournable Champs-Élysées. Et elle est accueillie par Michel Drucker. Et aussi par l'humoriste Guy Bedos, qui est visiblement très ému.
Vous parlez de jolies femmes et la discipline du corps. Nous allons maintenant accueillir mon cher Guy, vous en brûlez d'impatience. Et je vais présenter aux téléspectateurs qui ne la connaissent pas encore la nouvelle Miss France, qui a été élue il y a quelques jours.
Oh, et on va la connaître, mais tous les plaisirs.
Isabelle Turpeau, qui est là. Venez Isabelle, on l'applaudit. Isabelle Turpeau.
Des femmes.
Vous étiez Miss Paris ou voilà Miss France.
Ouais.
Eh bien, je vous félicite. Vous avez un métier. Qu'est-ce que faites-vous?
Je suis des cours.
Je suis de comédie.
Oui. Ah, vous êtes comédie.
Sa tournée des médias se passe plutôt bien. Chez Drucker, dans les JT, Isabelle semble à l'aise. Légèrement peut-être sur la retenue, la timidité sans doute. Mais à la fin de cette tournée des popotes, le 6 janvier 1983, Miss France prend tout le monde à contre-pied. Elle annonce qu'elle renonce à son titre de Miss France. Et elle explique pourquoi à Jérôme Godefroy sur Europe 1.
J'étais prise de panique, j'ai eu peur et j'ai décidé de refuser.
Enfin, en général, quand on se présente à une élection, c'est pour être élue.
Ah oui, mais c'est juste au dernier moment que j'ai pris de panique. Mais je voulais être Miss France, mais j'ai eu crainte, j'ai eu peur de tous ces journalistes. Car j'ai compris au dernier moment que c'était une trop lourde responsabilité à assumer.
Qu'est-ce que c'était ces responsabilités, justement ?
C'est pour partir, aller à droite et à gauche.
Et vous préférez rester chez vous?
Ah oui, je préfère, je suis bien chez moi.
Mais alors, quand même, vos parents et vous-même, vous aviez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour cette élection.
Oh oui, oui, même, surtout mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. Ouais, ils m'ont acheté une garde-robe, des séances de bronzage.
Tout ça a coûté quand même beaucoup d'argent.
Oh oui, monsieur.
Et vous êtes dans une famille modeste?
Oh oui, très modeste.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Ben, maintenant, je prépare mon CAP de secrétariat, et je pense, voilà.
Et vos camarades, vos amis, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Ils m'ont traité de folle. Oui, parce qu'ils m'ont dit, si je serais à ta place, j'aurais accepté.
Tout le monde est surpris par sa décision. Pourquoi? Quelques jours plus tard, au JT de 13h, Noël, ma mère, croit avoir la réponse.
Pour avoir posé nu, elle perd sa couronne. Il ne s'agit pas du tout d'une princesse intempérante, mais de Miss France. Au comité Miss France, on ne badine pas du tout avec la vertu de ses protégés, parce qu'elle avait accepté de poser en petite tenue pour un hebdomadaire. Isabelle Turpeau, notre Miss France 83, a été déchue de son titre et remplacée immédiatement par sa dauphine, une bordelaise de 19 ans.
Pour la présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay, ces photos étaient trop charnel.
Vous savez, le problème n'est pas de savoir si une jeune fille doit se mettre seins nus ou pas seins nus. Il y a un règlement sur le plan national qui veut que Miss France conserve l'image de marque qu'elle a depuis des années, c'est-à-dire qu'elle représente une certaine jeune fille française, disons saine de corps et d'esprit, et que l'image des seins nus n'est pas celle que nous avons depuis des années.
De son côté, l'ex-Miss France 83 se défend. Ces photos ne sont ni pornographiques, ni choquantes.
C'est la poitrine découverte, un point à la ligne. C'est pas le nu intégral. Madame de Fontenay était bien sûr au courant, puisque c'était pour l'Italie, et a donné carte blanche au photographe pour lui dire « Bon, vous pouvez faire telle et telle chose avec Mademoiselle Turpeau. »
Donc, Madame de Fontenay était au courant de ces photos et du reportage qui devait passer en Italie.
Mais bien sûr.
Alors, comment expliquez-vous son attitude actuelle? Pourquoi le comité vous a destitué pour ces photos?
Écoutez, c'est un prétexte.
Et
mais alors
un prétexte?
Qu'on ne dise pas que j'ai fait du nu alors que c'est faux. C'est archi faux. Et en plus, ces photos ne sont pas passées dans aucun canard en France.
Et vous dites que c'est un prétexte. Un prétexte pour quoi?
Mais pour me destituer, de toute façon. Si ce prétexte n'avait jamais existé, si ces photos et ce reportage ne l'avaient jamais fait, elle aurait trouvé un autre prétexte, parce que c'était seulement, et au début, ça a commencé, c'était une incompatibilité d'humeur, comme on dit.
Isabelle Turpeau refait la tournée des médias pour crier au complot et au despotisme de Geneviève de Fontenay.
Quand vous avez été élue Madame de Fontenay, n'ignorait rien de votre anatomie, je suppose.
Bah, oui.
Bon, bah c'est la même qui les voyant en photo vous a destitué, alors.
Voilà.
C'est incompréhensible.
C'est inadmissible, finalement, parce que c'est pas très honnête. Et bon, je ne comprends pas son comportement et sa façon d'agir à mon égard. Parce que j'ai un caractère et une personnalité, et ça, on l'accepte pas.
C'est-à-dire que vous avez mauvais caractère,
non? J'ai pas mauvais caractère,
non,
mais j'ai un
caractère
comme vous, voilà. Et une personnalité comme beaucoup de gens.
Et alors, ce que l'on demande peut-être quelquefois à une Miss France, c'est d'être plus souple, plus obéissante, de dire oui tout le temps.
Voilà.
De se laisser mener par le bout du nez,
peu,
comme
voilà.
Un petit toutou, tout ouais. Ça, c'est ça. Et alors vous disiez, vous saviez dire non, et c'est ça.
C'est fini pour le deuxième épisode d'Ondelat raconte, consacré à l'année 1983. De Mister France m'ont aidé à écrire cet épisode, Guillaume Maury et Julien Pichenet. Boris Paczynski l'a réalisé. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1983 dans le troisième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.